Bonjour David, bonjour à tous. Alors que la mise en 2x2 voies de la RN149 entre Bressuire et Parthenay n'est plus, les élus appellent de leur vœu la réalisation d'aménagements de sécurité sur les portions les plus accidentogènes. Le nouveau ministre de l'Intérieur, plus dur sur les questions migratoires, pour l'Ardib qui défend et soutient les immigrés en bocage bressuire, ses missions vont devenir plus compliquées. Comme en Deux-Sèvres en général, la saison touristique en Touarçais n'a pas eu les mêmes retombées selon les professionnels du secteur. Bilan dans ce journal. La journée départementale de la randonnée pédestre aura lieu ce dimanche. Plusieurs centaines de randonneurs de Sévriens sont attendus à Cerisay. Les Chamois retrouvent enfin la compétition. Ils disputeront ce soir leur premier match de Coupe de France avec un déplacement à Nintrey. Quant à la météo, nette domination des nuages pour cet après-midi. Il n'y aura donc pas de réalisation d'une 2x2 voies entre Bressuire et Parthenay. Il y a une part de deuil à faire par rapport au projet initial, avait déclaré la préfète des Deux-Sèvres en début de semaine devant les conseillers départementaux réunis lundi en séance plénière. Cette RN149 n'est plus donc à ce jour une priorité, alors que cet axe routier est le théâtre de drames depuis des années. À défaut de la réalisation d'une 2x2 voies, des aménagements de sécurité sont évoqués, mais de nouvelles études devront confirmer leur bien fondé. Le président de l'Aglo de B, Pierre-Yves Marolleau, attend avec impatience ces réalisations.
À défaut d'une 2x2, il faut quand même travailler sur ces parties dont on sait qu'elles sont plus accidentogènes les unes que les autres. Je pense entre autres à la sortie de Chiché quand vous allez sur Parthenay où il y a eu quand même plusieurs morts. Je pense également à des embranchements qui vont soit sur Boimé, soit sur Fellabès. Je pense que là, il y a vraiment une urgence et l'urgence, elle est pour la sécurité. J'entends quand le président de région avec lequel on a de très bonnes relations nous dit, moi je viendrai pas sur les routes, je vais uniquement sur le train. Le train, pour nous, on le sait bien, hein, à moins de reposer des rails, ça ne viendra jamais. Donc faut au moins, et c'est dans l'intérêt de tout le monde, sécuriser cette route.
Même son de cloche du côté d'Emmanuel Ménard, vice-présidente de l'Aglo en charge de l'économie. Ces aménagements sont indispensables sur les portions les plus dangereuses.
J'espère, moi, toujours qu'on va y arriver parce que la population en a besoin. Nous devons d'avoir une route beaucoup plus sécuritaire, bien sûr. Vous avez entendu mon collègue maire de Chiché, qui est le plus exposé aux accidents qu'il subit de façon plus que régulière. Mais moi, j'y crois encore. Et Madame la préfète, pour avoir été en contact, a été claire. Il est certain sur le fait qu'il n'y aurait pas de 2x2 voies, mais des zones de dépassement. Donc maintenant, moi, je demande, comme mes collègues élus, qu'on avance très rapidement, qu'on dise tout de suite où sont ces zones de dépassement pour au moins déjà avoir des travaux concrets. Depuis 50 ans que nous attendons, on peut peut-être quand même espérer un jour avoir un coup de pelle pour faire avancer le dossier.
Emmanuel Ménard, vice-présidente de l'Aglo de B, ainsi que Pierre-Yves Marolleau, le président, il y a quelques instants, tous deux étaient au micro-colline de Fabien Gazeau. Le nouveau ministre de l'Intérieur affiche des positions dures sur l'immigration. Dès son entrée place Beauvau, le Vendéen Bruno Retailleau a affiché sa volonté, je cite, de mettre un coup d'arrêt aux entrées illégales et augmenter les sorties. L'immigration massive n'est pas une chance pour la France, a également déclaré le Républicain qui s'est montré très critique ces dernières années sur le laxisme du pouvoir exécutif. Interrogé hier matin par Fabien Gazeau, Gilles Maréchal, le président de l'Ardib, qui accompagne les immigrés en bocage bressuré, considère que la situation s'était déjà durcie.
Actuellement, il y a déjà une augmentation très forte des obligations à quitter le territoire. Il y a la construction de centres de rétention administrative, il y a la mise en place des migrations choisies, il y a des régularisations à minimum, et puis avec une pratique de maltraitance administrative par rapport aux émigrés, quoi. Et puis dans les aggravations, ce qu'on repère en première lecture, quoi, c'est l'aide médicale d'État qui risque d'être supprimée par une nouvelle loi qui est promise, là. Le regroupement familial qui va être extrêmement durci, les conditions de régularisation qui vont être encore plus réduites, et puis un projet de modification de la Constitution, hein, pour réduire le droit du sol, quoi. Hein, donc les deux, c'est c'est à la fois une rupture, mais surtout une continuité, une aggravation de ce qui existe. Quoi.
Bruno Retailleau a donc affiché sa volonté de fermeté sur la politique migratoire. Pour Gilles Maréchal, ce durcissement a surtout pour effet de renforcer l'illégalité et la clandestinité.
La vie est impossible dans plein de pays. Hein, pour, il suffit de penser à ce qui se passe au Soudan, où il y a plusieurs millions de personnes qui sont déplacées, dont très peu viennent en Europe et encore moins en France. Hein, mais ils prennent des risques insensés pour fuir la guerre, quoi. Mais que ce soit aussi, par exemple, ça a été dit au dernier cercle de silence, au Sénégal, où les populations côtières ne peuvent plus vivre de la pêche, puisque les multinationales pillent les ressources maritimes, quoi. Les régularisations étant de plus en plus difficiles et la chasse aux migrants allant se traduire de plus en plus fortement, quoi, eh bien, les personnes vivent cachées et travaillent. Et donc ça répond aussi à une demande d'entreprise, du système économique, dont, alors pas tous, hein, faut pas exagérer, hein, mais un certain nombre s'organisent pour faire travailler, exploiter de façon très très grave des personnes sans défense. Quoi.
Gilles Maréchal, le président de l'ARDIB, Association pour la reconnaissance des droits des immigrés en Bocage Bressuret. Isabelle Autissier à Niort demain jeudi, dans le cadre de la semaine du développement durable, Niort Agglo accueillera la célèbre navigatrice. Cette dernière proposera, accompagnée de Éric Chaumillon, chercheur en géologie marine, une conférence consacrée à l'importance de l'océan dans la régulation climatique. Cette conférence aura lieu à partir de 18h30 demain au Grand Théâtre du Moulin du Roc. L'été 2024 en stagnation touristique en Touarcé, sauf exception. Globalement, à l'image de notre département, le tourisme s'est tassé en Touarcé et les beaux scores sont rares, mais il y en a, comme le parc de la Vallée. Élue référente, Esther Maillé-Lucas livre les grandes lignes de cet été 2024, pas tout à fait comme les autres. Elle est au micro-colline de notre correspondant Touarcé, Dominique Hérault.
Plusieurs facteurs négatifs se sont mélangés, en fait. Quand on a eu un temps plus maussade, on a eu les JO, on a eu les élections, et puis un pouvoir d'achat en berne. On a une stagnation, voire une petite baisse selon certains sites, mais tout est lié à cet été un peu mitigé. On a le parc de la Vallée, qui est quand même, pas l'emblème, mais c'est le meilleur site du département. Lui, il a eu un début de saison qui était pas bon. Hein. Mais au mois d'août, ils se sont récupérés. Ils ont un tout petit peu plus de visiteurs qu'en 2023. Ils doivent avoir 40 000 cette année, alors qu'ils avaient 36 000 l'année dernière. Poiron, il y a un petit tassement, mais sur l'ensemble de l'année, mini hausse du nombre de visiteurs. Par contre, la maison du Touarcé, notre office de tourisme, on a eu une vraie hausse du nombre des visiteurs. On a eu plus de 15% de hausse. D'ailleurs, je pense que c'était peut-être dû à la fermeture du pont Saint-Jean qui a obligé les personnes à rentrer par la vieille ville et qui ont découvert une ville patrimoniale intéressante et les gens sont restés. Donc il y a une grosse demande de produits, même de produits souvenirs à la boutique.
Les touristes perdus géographiquement par des déviations sont donc des touristes retrouvés d'une certaine manière. D'ailleurs, les jeux de piste sont devenus très tendance, comme le prouve Terra Aventura, qui a transformé le Touarcé en région mystérieuse. Esther Maillé-Lucas.
Terra Aventura, ce sont des parcours qui ont été mis en place par la région, accompagnés par le département. C'est vraiment des parcours qui se font en famille avec des thèmes et puis des poils, ce qu'on appelle des poils, à récupérer à chaque fois. Et cette fois-ci, on en avait fait un très spécial sur le parcours de Thouars et on a eu une très grosse hausse des aventuriers.
Il reste à recueillir les chiffres de location chez les hébergeurs pour connaître le véritable niveau du tourisme de cet été, où il semble que les cyclistes de la Vélo Française ont été plus nombreux que d'habitude. L'arrière-saison réservera peut-être de bonnes surprises, à condition qu'il ne pleuve pas trop. Reportage signé Dominique Hérault. La fête des marcheurs ce dimanche à Cerisé. Avec 2700 randonneurs et randonneuses, le comité départemental de randonnée pédestre des Deux-Sèvres, qui représente la Fédération française de randonnée, 41 associations affiliées, peut se targuer d'une médaille de bronze au niveau national, au niveau de ses licenciés. Le comité de Sèvriens a donc choisi Cerisé pour accueillir cette année la journée départementale prévue au domaine de la Roche ce dimanche 29 septembre. Le club cerisien a bien préparé le terrain pour ce rendez-vous départemental. Bénévole, Francis Guiton en est l'un de ses 70 membres.
On est plusieurs à le préparer, donc c'est un travail sur le plan d'abord. Et ensuite, on va reconnaître sur le terrain, parce que parfois il peut y avoir des petites différences entre la réalité et puis ce qu'on imagine sur une carte IGN. Et ensuite, eh bien, donc, quand c'est validé par le conseil d'administration, on le propose aux adhérents et on planifie la sortie avec les collègues.
Alors donnez-nous envie, là, sur un des sentiers, pourquoi on aura envie de venir à cette randonnée ?
Ah, donc c'est découvrir en même temps tout le paysage du bocage qui est quand même très très intéressant, avec des chemins creux qui est très diversifié, très vallonné, et puis en même temps aussi il y a tout un patrimoine historique et géographique local qui est très important.
Quatre randonnées, une marche nordique et un challenge seront au programme de cette journée, et c'est le président du comité départemental Jean-Pierre Guillon qui nous les détaille également au micro Colline de Jacqueline Pignon.
On cherchera à vous faire découvrir tout ce que peut apporter la fédération auprès des randonneurs. Et donc là, quatre randonnées, le matin, 8, 12, 22 et 34 kilomètres. Vous avez des ravitaillements, donc vous venez simplement avec votre petit sac à dos, la boisson et puis surtout des chaussures de marche. Et là, il y aura au moins dans ces randonnées-là un animateur d'un club voisin. Après, vous avez la marche nordique, 11 km, c'est avec les bâtons, bien sûr. Hein. Ça attire beaucoup de gens. Tous les clubs se sont développés avec la marche nordique. C'est la marche la plus complète. Vous allez donc travailler dans la propulsion du corps vers l'avant. Donc, vous allez vous muscler dans tout l'ensemble du corps. Donc, pour cette année, comme tous les ans, on vous propose quelque chose, une découverte d'une nouvelle... Là, ce sera donc des nouveaux bâtons, puisqu'on parlait de marche nordique. Ça s'appelle les Bugging Pumps. Ces bâtons avec une pompe, c'est-à-dire qui glisse sur le même. Et ça, c'est une nouvelle pratique qui nous vient aussi du nord de l'Europe.
Les inscriptions seront prises sur place. Les randos sont gratuites pour les licenciés, 5 euros pour les autres. Déambulation et animation musicale viendront ambiancer cette journée départementale de la randonnée pédestre ouverte à tous. Ce sera donc ce dimanche 29 septembre à Cerizé. Le lancement de la campagne Téléthon en Nord-de-Sèvres ce vendredi à Combran. Au programme, à partir de 19h à la salle Léon Marchand, le bilan de l'édition 2023, mais aussi l'intervention de Bruno Cadeau du Centre de recherche en myologie. C'est un pôle de recherche multidisciplinaire sur le muscle et ses pathologies. Le Téléthon 2024 se déroulera les 29 et 30 novembre et c'est le chanteur Nika qui en est le parrain cette année. L'avenir des jeunes Toircés organise son 10e étrange week-end, les 31 octobre, 1er et 2 novembre. Entre 3500 et 5500 visiteurs chaque année, ce rendez-vous du frisson et du fantastique à l'Orangerie du Château constitue l'une des trois plus grandes animations de la ville durant l'année. Pour faire partie de la fête de l'intérieur, il est possible de se présenter et se proposer comme bénévole via Facebook sur Avenir Jeunes Toircés. L'association serait ravie de compter sur un petit coup de pouce d'une dizaine de personnes supplémentaires. Dans l'actualité sportive, les Chamois retrouvent le terrain ce mercredi, privé de compétition depuis le mois de mai dernier. Ils vont disputer ce soir leur premier match officiel pour le compte de la Coupe de France. Les deux Sévoyens se déplaceront affronter Nintré, une R3, match à 19h45. En parallèle, c'est toujours l'incertitude quant au niveau dans lequel ils vont évoluer en championnat. Actuellement, seul le Pau Football Club est l'unique club pro de Nouvelle-Aquitaine, un club que connaît bien Mathieu Rabhi, ancien président du district des Pyrénées-Atlantiques, candidat à la présidence de la Ligue. Ce dernier est en campagne et se trouve en ce milieu de semaine dans notre département, l'occasion de recueillir son sentiment sur la situation des Chamois.
C'est un petit peu à l'image de la déshérence du football français globalement, qui ne contrôle plus vraiment à qui appartiennent les clubs. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, n'importe qui peut se retrouver à la tête d'un club. Il n'y a pas forcément tous les contre-pouvoirs pour empêcher certaines dérives. On peut quand même pas s'imaginer que personne à Niort n'a vu les choses arriver. Je voudrais pas être trop inquisiteur pour les gens, mais il y a un écosystème, il y a un historique, il y a une association, il y a une mairie, il y a un club. J'entends qu'il y a un propriétaire qui prend le club et qui en fait presque ce qu'il en veut. On n'a pas tout découvert non plus du jour au lendemain. Donc il va falloir qu'on soit aussi plus sérieux sur les contre-pouvoirs, sur la surveillance, sur la transparence. On peut pas continuer à attendre la fin d'une histoire pour ensuite remonter et dire mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Il y a toujours des raisons à ça.
Et la question que l'on se pose, c'est dans quel championnat les Chamois vont-ils évoluer cette saison? C'est toujours le flou.
C'est entre les mains de l'administrateur judiciaire de la Ligue, ce qui rend encore plus paradoxal la vie actuelle, c'est que les Chamois-Niortais ne sont pas en grande forme, mais la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine n'est pas en grande forme, puisqu'elle est administrée judiciairement, et que c'est même pas le comité directeur de la Ligue qui va prendre la décision, c'est un administrateur judiciaire. Il y a eu une conciliation au CNOSF, donc ça veut dire que le COMEX de la Fédération doit d'abord se prononcer pour savoir s'il confirme ce qu'il avait demandé en première instance, c'est-à-dire de le mettre en R3 ou en dessous, suivant ce que la Ligue décide. Donc on est encore sur, malheureusement, une partie de ping-pong où tout n'est pas terminé.
Le sentiment de Mathieu Rabhi sur les Chamois Niortais. À 44 ans, celui-ci a été le premier candidat déclaré à se lancer à la conquête de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, dont l'élection du comité directeur aura lieu le 9 novembre. Nous y reviendrons. Deux autres listes se présenteront face à lui, celle de François Genet, ancien joueur pro des Girondins de Bordeaux, et celle du Deux-Sévrien Dominique Philippe, soutenu par d'anciens professionnels comme Jean-Michel Larquet ou encore Dominique Rocheteau. En tennis de table, le mardi 29 octobre prochain à 19h30, la Romagne recevra pour le compte du championnat de Pro A Montpellier, avec dans ses rangs les désormais célèbres frères Lebrun. Pour l'occasion, la confrontation aura lieu à la Meilleraie à Cholet. Les réservations pour cette belle affiche sont ouvertes et se font en ligne sur le site du club de la Romagne. Laurent Villa, l'ancien coach de Cholet Basket, pressenti pour être le premier assistant de Frédéric Fautou, dans le nouveau staff des Bleus, appelé à succéder à Vincent Collet. La confirmation est attendue dans le courant de cette journée. Le jury a livré son verdict pour la 5e édition du budget participatif de la ville de Bressuire. 13 projets avaient été déposés, 4 d'entre eux ont été retenus, à savoir la fabrication et la réalisation d'un circuit semi-permanent de courses d'orientation connectées en centre-ville de Bressuire, projet porté par un habitant pour 7 111 €, l'aménagement de terrains de pétanque et tables de pique-nique à Saint-Porchère pour 15 800 € porté par l'Amicale des retraités, 14 500 € pour l'aménagement d'une aire de jeu de pétanque avec une pergola et des tables de pique-nique portée par la pétanque classe DN, et enfin la sécurisation du cheminement piéton vers la Marelle pour 9 500 € portée par le conseil citoyen et des habitants du quartier Valette.